à tous et bienvenue pour ce quatrième et dernier carton du 12e épisode du carton. Pour m'accompagner dans ce money time de cet épisode, je suis toujours accompagné de Jérémy.
Salut tout le monde, salut les gars.
Et de Benjamin.
Salut tout le monde.
Alors vous êtes prêts messieurs?
Là c'est mon moment, c'est ma spécialité.
On va voir si le shooter fou sera prêt. Alors pour ce dernier carton, on sort un peu du cadre classique de la NBA pour discuter d'une nouvelle initiative lancée par la NBA G League avec le lancement de la G League Select Team. La question est très simple, est-ce que la G League va rivaliser avec la NCAA? Alors comme nous le savons, les règles encadrant les projets universitaires aux États-Unis sont très strictes. Par exemple, il y a l'interdiction de se voir proposer un contrat ou une quelconque rétribution financière pour pratiquer le sport. Demandez d'ailleurs à James Wiseman, la grande attraction de la prochaine draft, ce qu'il en pense. C'est vrai que le pivot a décidé d'arrêter l'université à cause de justement ces interdictions. Et si on prend d'ailleurs les têtes de liste pour la prochaine draft, on se rend compte que peu font partie du cursus universitaire américain classique, comme par exemple LaMelo Ball, RJ Hampton ou encore Denis Avdija. Donc arrive ce projet, comme je le disais, de la G League Select Team, où l'objectif est de proposer une structure à des jeunes joueurs à fort potentiel dans le cadre d'un contrat de développement à la manière des joueurs de l'élite NBA. Seulement, la petite différence qu'il va y avoir avec la NCAA ou même avec l'élite NBA, c'est que ces jeunes joueurs auront la possibilité d'avoir un contrat à hauteur de 500 000 dollars. Donc ma question est simple, et je vais me tourner vers le spécialiste de notre NCAA, à l'analyste, ou en tout cas de toutes ces questions-là. Je vais me tourner vers toi, Benjamin. Est-ce que pour toi, la Select Team va commencer à mettre du plomb dans l'aile de la NCAA?
Bah, tu l'as mentionné, effectivement, le scandale Wiseman cette année a déjà montré exposé les problèmes de la NCAA. Et quand c'est arrivé, on se demandait déjà comment la NCAA va rebondir, parce que là, il faut une réaction. On voit de plus en plus de joueurs qui partent jouer ailleurs, qui restent en Europe, à l'image de Doncic pour sa saison rookie, mais bon, il était extrêmement précoce. Comme tu l'as mentionné, Denis Avdija. Il y avait aussi RJ Hampton parti en Australie, si je ne dis pas de bêtises. LaMelo Ball, c'était en Nouvelle-Zélande. Tous les joueurs s'exportent dans le but, en fait, de d'un côté déjà jouer dans une ligue professionnelle avec des personnes qui ont plus d'expérience, mais aussi, comme tu l'as mentionné, de se faire un petit peu d'argent. Par exemple, Kuminga et Green, la saison prochaine, gagneront 500 000 dollars. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'ils auraient gagné en fac, c'est-à-dire rien. Il ne faut pas oublier non plus que la fac interdit, du coup, comme tu l'as mentionné, mais toute rétribution qui a un lien avec leur activité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus se faire de l'argent en dehors de vraiment du basket. Alors qu'en G-League, là, ils pourront, par exemple, représenter des marques de chaussures, par exemple, par des événements ou des partenariats. C'est le cas, si j'ai pas de bêtises, de Green. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je ne sais pas si c'est Green ou Kuminga, mais l'un des deux, en tout cas, a signé un contrat avec une entreprise qui produit des cartes de sport, et il vend ses cartes sur ce site-là, et c'est un petit business pour lui, c'est déjà pas mal d'argent, et entre 500 000 dollars plus tous les à côté de la G League et les 0 dollars de la NCAA, il n'y a pas photo. Économiquement parlant, c'est parfait pour les joueurs, et elle vient clairement marcher sur la NCAA sur ce plan-là.
Alors, comme tu le disais très justement, il y a déjà des premiers noms qui sont sortis pour cette Select Team. Donc, tu parlais de Jalen Green, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la classe de lycée 2020, notamment par ESPN. Il est devenu d'ailleurs le premier joueur à rejoindre être annoncé dans cette G League Select Team. Il y a eu, comme tu disais, voilà, Jonathan Kuminga, qui lui est le meilleur joueur de la classe de lycée 2021. Qui a été reclassifié en 2020, mais bon. Bref, et qui est justement sélectionné dans cette équipe. On compte également Daishen Nix, Isaiah Todd, je ne sais pas si vous connaissez, qui est vraiment très intéressant, qui est un forward très intéressant. Il y a Kai Soto, le centre qui était du côté de la Géorgie, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, il y a aussi... Pardon ?
Philippines, mais c'est dans le coin.
Pardon, pas du tout. Et non, je voulais dire aussi, il y a Principal Singh, qui est lui un Indien, qui a également signé dans cette sélective. Donc si je prends rapidement tous les avantages qu'auront les joueurs assis dans cette équipe. Donc en fait, déjà, ils ont la possibilité de jouer avec des vétérans NBA. Donc il va y avoir des petits contrats qui vont être négociés. Ils prendront part à 10 à 12 matchs d'exhibition contre d'autres G League Teams. Et en plus du plan sportif, il y a tous les à côté, donc Benjamin que tu as déjà abordé, mais il y a tous les bonus financiers qui seront apportés. Donc ils ont un bonus pour chaque match joué. S'ils participent à des événements caritatifs, ils peuvent prendre part également à des programmes de développement au sein de la J-League. Donc ça, c'est des bonus financiers qui sont indéniables. Donc au final, on devrait arriver à des contrats qui devraient tourner aux alentours du million de dollars à peu près. Plus, il y a également la bourse d'études au sein de Arizona State University qui est un partenaire de la NBA. Donc, en gros, il y a très peu de risques pour leur avenir, tant sur un plan sportif que sur un plan personnel. Donc, c'est vrai qu'avec toutes ces initiatives, la NBA place clairement ses billes pour le développement de certains jeunes joueurs et en tout cas pour récupérer déjà des futures stars. Toi, Jérémy, c'est quoi ton point de vue sur cette sélective? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose?
Alors moi, mon point de vue, je voudrais me concentrer plutôt sur l'aspect du jeu pour eux plutôt que sur l'aspect financier. Financier, c'est sûr, c'est une bonne chose. Ça, c'est sûr et certain. Et dans le jeu, je pense que c'est aussi une bonne chose. Tu en as parlé, les matchs d'exhibition en G-League, les vétérans qui vont pouvoir les rejoindre et un peu les aiguiller. Et leur donner un peu plus d'expérience. Et j'aimerais aussi parler de leur coach, Brian Shaw, qui a fait des passages en NBA en tant qu'assistant, notamment chez les Lakers de 2003 à 2011 et de 2016 à 2019. Et il est passé aussi chez les Nuggets pardon, et Indiana. Ce coach, moi, je pense que c'est absolument ce qu'il leur fallait. Il a été aussi joueur hein, pour pas mal d'équipes, donc pour pas les citer, Boston, Miami, Golden State, Philadelphie, Portland, Orlando et aux Lakers. Donc il a pas mal d'expérience et c'est un excellent coach pour ce projet de la Select Team. Il sait ce que c'est qu'être un jeune joueur NBA, il sait ce que c'est qu'être sur un banc en NBA, donc ça peut être que de l'expérience en plus pour ces joueurs-là. Donc. Moi, par rapport à ça, je trouve que c'est vraiment très, très positif.
Après, il y a aussi toute la question qui est l'histoire de la NCAA. On sait que le March Madness est un événement qui est extrêmement suivi aux États-Unis notamment. Toi, Benjamin, je sais que tu es très attaché à cette NCAA. En tout cas, tu suis énormément le développement du championnat universitaire. Est-ce que pour toi, il y a en tout cas une inquiétude à avoir pour la NCAA, est-ce que à terme on verra pas de nombreuses initiatives de la sorte comme la Select Team fleurir à travers les États-Unis?
Alors bah, pour moi, c'est clairement une grande menace pour eux parce que tu l'as mentionné, la NCAA, c'est une grande institution. Presque tous les joueurs NBA sont passés par des universités et ce projet qui est nouveau, vraiment, la menace. Et mine de rien, les joueurs qu'ils ont récupérés, c'est quelque chose puisque mon principal signe intéressait plusieurs universités. Par contre, Jalen Green et Jonathan Kuminga sont pour moi les deux joueurs les plus excitants de leur classe de draft initiale, parce que Jonathan Kuminga était annoncé premier pick de 2022. Maintenant, il est annoncé top 3 de 2021. Jalen Green, pareil, top 3 2021. Les deux sont des potentiels numéro 1 de draft. Isaiah Todd, c'est un futur lottery pick. Deshaun Nix, c'est
Voir
po
plus simple.
po potentiellement plus. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'il fait aussi en Select Team. Deshaun Nix, c'est un gars qui peut être très bien sélectionné au premier tour. Et ils ont réussi à recruter un panel de joueurs en fait très très différents, très intéressants à voir, des joueurs qui étaient très attendus en NCAA. Et c'est vrai qu'on a vu, notamment avec Duke de Zion et RJ Barrett, on l'a vu, les personnes qui regardent la NBA sont aussi les gens qui regardent la March Madness pour ces joueurs-là, pour les joueurs qui vont arriver en NBA. Et priver des équipes de ces joueurs assez incroyables, en fait, assez spectaculaires, vraiment très attendus, c'est retirer du public à la NCAA. C'est vraiment la mettre en péril. Et ça montre un petit peu le début d'une concurrence entre la NBA, avec sa G League, et de la NCAA. Et clairement, faire face à la NBA, bah, c'est presque perdu d'avance. Ils vont devoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements pour pouvoir s'aligner sur la nouvelle offre de la NBA et pour survivre à cette attaque.
Justement, tu parlais de tous les évolutions qui allaient être nécessaires de faire du côté de la NCAA. Toi, de ton côté, Jérémy, après, je te repasse la balle à Benjamin, mais est-ce que tu aurais des idées pour la NCAA pour qu'elle se développe, pardon, et qu'elle parvienne à contrer en fait cette attaque venant de la NBA?
Bah, une des premières idées qui est sûrement la. Enfin, j'ai pas énormément réfléchi pour la trouver, hein, je vais pas vous mentir, mais peut-être déjà débloquer ces histoires de bourse et ce côté financier en NCAA. Alors, c'est le milieu universitaire, donc c'est peut-être compliqué à faire, ça j'avoue que j'en sais pas grand-chose, mais c'est déjà, à mon avis, les joueurs, au moment de signer pour la Select Team, le contrat de 500 000 dollars, il a beaucoup pesé dans la balance. Donc, à mon avis, ce serait une des premières choses à faire pour attirer, pour être plus attractif par rapport aux joueurs, en fait.
Ouais, je suis d'accord avec toi. De ton côté, Benjamin, tu es du même avis que Jérémy sur le sujet?
Pour moi, ils doivent attendre déjà un an, histoire de voir ce que le projet de la G League va montrer, et aussi voir si la Select Team peut devenir les Select Team, parce que si c'est qu'une équipe, finalement. C'est un projet qui est très intéressant pour les joueurs, mais qui n'est pas si menaçant que ça. Et comme Jérémy, je suis d'accord. Je pense que c'est avant tout une histoire d'argent pour la Select Team. Les joueurs se sentent valorisés par cet argent-là parce que des milliers de spectateurs viennent les voir et les regardent à la télé et compagnie. C'est quelque chose qui mérite salaire, qui mérite une rétribution. Et je pense que les joueurs sont frustrés de ne pas l'avoir en NCAA. Donc le premier pas, c'est vraiment au moins d'autoriser les partenariats à côté. Parce que je ne vois pas ce que ça leur coûterait. Et je les vois mal survivre si la G League continue son offensive sans proposer eux-mêmes des salaires directement aux joueurs, même si c'est plus petit qu'en G League. Ce sera déjà quelque chose qui intéressera les joueurs. Et ensuite, je pense qu'ils ont intérêt aussi à simplement essayer d'améliorer leur programme. Jérémy en a parlé, Brian Shaw, c'est un atout de taille pour cette équipe. C'est un coach NBA qui a vraiment une expérience importante à amener à cette équipe-là. Alors, ils devront aussi essayer de. Mais c'est au niveau de chaque université de récupérer éventuellement des joueurs qui pourront venir en tant que consultants pour venir coacher et compagnie. Patrick Ewing le fait déjà du côté de Georgetown, par exemple. Et c'est des équipes qui ont tout compris. Et c'est des équipes qui doivent continuer et les autres doivent s'adapter à l'offre. Mais je pense qu'on s'attend à un gros changement de la part de la NCAA dans les années à venir.
Moi, c'est vrai que si, et pour conclure, justement, pour prendre ce buzzer beater, je pense qu'il y a vraiment une question à se poser du côté de la NCAA qui est que faire en fait pour l'avenir? Comment réussir à prendre ce virage qui va permettre à la Ligue, à la NCAA, pardon, de franchir un cap et surtout de conserver ce leadership qu'elle a actuellement sur les jeunes joueurs aux États-Unis. Et là, il y a l'exemple qui est du basket, mais ça équivaut dans tous les sports. Il y a quelque chose aussi que je voudrais parler rapidement et pour terminer, c'était aussi le côté financier, bien sûr, mais un cursus universitaire aux États-Unis se fait en 4 ans. Est-ce que pour essayer de conserver les joueurs le plus longtemps possible et essayer justement d'avoir une hype qui se crée très rapidement autour de ces joueurs, on sait que les jeunes joueurs partent généralement au bout d'un an, voire 2 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de débloquer des fonds au bout de 2 ans de contrat, par exemple, ou 3 ans, dès le début de la troisième année, avec un petit contrat qui arrive? Ça permettrait aux jeunes joueurs de se développer peut-être un peu plus sur le long terme, et au final, avec quelque chose de graduel qui est plus on reste en NCAA, plus notre valeur financière, en tout cas notre contrat, évolue. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait être intéressant. Après, le côté aussi qui est de se dire que les franchises, pardon, les universités ne seraient plus sur un plan d'égalité, c'est-à-dire que celle qui aura le plus d'argent serait capable de faire venir les meilleurs joueurs. Et voilà, il y a vraiment un travail à faire et ce sera très intéressant de se dire et de regarder en fait l'évolution de la NCAA sur les prochaines années si elle n'a pas envie de voir la Select Team devenir l'antichambre de la NBA. Le buzzer de ce 12e épisode retentit, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce carton. Je vous invite à vous rendre également sur les réseaux sociaux de l'analyste NBA pour nous donner votre avis sur les possibilités de développement de la Select Team et également les axes à travailler par la NCAA. Rendez-vous également sur notre site NBA, pardon, analyste-nba.com. Messieurs, je vous remercie vraiment d'avoir pris part avec moi à ce match. C'était vraiment top de vous avoir. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Carton. Belle journée à tous. Salut!